Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Kenya, violent affrontement ce lundi entre l'armée et des militants du groupe djihadiste somalien Shabab dans le comté de Lamu, sur la côte de l'océan Indien, dans l'est du pays. Bilan, 10 militants Shabab tués et 3 soldats kenyans blessés. Selon Nairobi, la fréquence et l'importance des incursions des Shabab en provenance de Somalie et en direction du Kenya est en nette diminution ces 6 derniers mois. En RDC, journée sans activité ce lundi à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Et ce, après le massacre d'au moins 18 personnes dans cette ville samedi dernier. Une tuerie attribuée aux rebelles islamistes ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées. Le compte-rendu de ces violences avec Charlie Kasereka, le correspondant sur place de VOA Afrique. Il est à Goma, chef-lieu du Nord Kivu.
Des 18h jusqu'aux environs des minuit samedi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues selon les témoignages recoupés par VOA Afrique dans la ville de Beni. L'attaque visait un camp militaire se trouvant dans les quartiers Païda à l'est de la ville. Dans ces échanges de tirs d'environ 6 heures, l'armée congolaise mentionne un bilan d'au moins 18 personnes tuées, parmi lesquelles 4 militaires et 8 blessés qui suivent les soins à l'hôpital de Beni. Les bilans seraient encore plus lourds selon la société civile locale qui signale aussi des personnes disparues dans la foulée. Plusieurs dégâts matériels sont aussi signalés, des maisons incendiées, véhicules et motocyclettes calcinées par les assaillants avant de se volatiliser dans la nature. L'un des responsables de la société civile, contacté par VOA Afrique, présente ses inquiétudes suite à cette attaque menée cette fois-ci en plein centre-ville de Beni, ajoutant d'ailleurs que la journée de ce lundi est décrétée journée sans activité pour compatir avec les familles éprouvées par ces derniers massacres. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les populations du Poule, région troublée proche de la capitale Brazzaville, restent sceptiques quant aux armes que remettent actuellement les ex-combattants ninja du pasteur Tata Ntumi. Des armes qui ne seraient, dit-on, que des fusils de chasse. Mais pour la commission de ramassage des armes, ce ne serait pas le cas. Reportage sur place à Kinkala du correspondant de VOA Afrique sur place, Arsène Séverin.
De nombreux habitants du Poule estiment que les armes que remettent les ex-combattants ninja ne sont vraiment pas celles dont la détonation les a terrorisés pendant de longs mois du conflit armé. Selon ces populations, les armes remises ne sont en effet pour la plupart que des fusils de chasse. Nestor Anxiété, un habitant de Kinkala.
Ça ne nous rassure pas tellement parce que peut-être pas, il n'y a pas de banditisme. Mais est-ce que réellement les armes qui ont été remises sont celles-là? Est-ce que c'est vraiment le nombre? Parce qu'il faut que dans les confins des villages, il faut que les gens reprennent. Mais avec des hommes en armes qui pensent je ne sais pas à quoi, ça pose des problèmes.
Pour rassurer la population et lever tous ses doutes, Séraphin Ondélé, président de la commission de paix dans le Poule, a été obligé d'ouvrir exclusivement à VOA Afrique son dépôt de stockage d'armes collectives.
Ce qui est dans les cartons, dans les sacs là, sont des armes. Très bien. Alors je vais te montrer le deuxième magasin. Là aussi on a fait des fils de chasse, on les a mis de côté. Puis ces gens en parlent. Oui, regarde, c'est ça qui détruit les ponts avec leur détonateur. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et des roquettes et des grenades.
Comme on a dit au départ, les gens, les ex-combattants étaient hésitants. Le message est passé à plus de 2 reprises, le patient Tommy l'a lancé. Et donc voilà, là on est au-delà de toutes nos prévisions. Vous avez vu la quantité d'armes, la nature des armes. Ça dépasse largement toutes nos prévisions. Ils arrivent individuellement, de jour comme de nuit, ils remettent leurs armes, moyennant un kit que vous avez pu voir, et donc ça se passe très bien. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est un afflux incroyable.
Venu librement et volontairement remettre ses 2 kalachnikovs, le colonel Korombo, un chef des Kiru Ninja, déclare que pour eux, la guerre est définitivement terminée et les armes sont effectivement rendues.
C'est fini. Peut-être eux, mais sinon c'est nous, il n'y a pas la guerre. Parce que notre chef est Saint-Pardon de Lapin. Nous tous, on doit honorer cette lapin-là. Quand je donne ça, il m'a donné un petit danger pour que je vive avec ça. Je suis militaire d'abord, la classe 96, la 9-6. Malheureusement, ça, je retrouve au Brousse parce que c'est le pays qui m'a organisé. Maintenant là, on a tourné le dos pour Lapin.
Vouzaz, un autre ex-combattant, après avoir déposé son arme au guichet de Kinkala, appelle le gouvernement à organiser leur réinsertion socio-professionnelle.
Pour nous, les ninjas et le pasteur Ntumi, la guerre est finie. Si un jour les hostilités reprenaient, ce ne serait pas de notre faute, car nous avons tout remis. Maintenant, il faut vite passer à la réinsertion. Cela nous permettra de commencer d'autres activités socio-économiques.
Avec une arme échangée contre 100 000 voire 150 000 francs CFA, les ninjas gagnent des petites cagnottes qui leur permettent d'acheter des motos. Les autorités s'apprêtent à lancer l'identification des ex-combattants en vue de leur réintégration. De retour de Kinkala dans le pool, Arsène Séverin, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En République centrafricaine, plusieurs quartiers de Bangui frappés par de fortes inondations. De nombreuses familles sont sans abri après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et ses environs hier. Les détails avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Freeman Sipila.
Les secteurs les plus touchés sont les 5e, 4e et 8e arrondissements. Les eaux ont non seulement englouti certaines avenues, mais aussi ravagé des centaines de maisons de commerce et d'habitations. Plusieurs sinistrés pointent du doigt un manque de canalisation dans leur quartier et l'indifférence des autorités de Bangui face à leur situation. Pour exprimer leur colère, une dizaine de mécontents, torse nu, shorts et pantalons trempés, ont barricadé une partie de l'avenue de la Paix dans le 5e arrondissement.
Le problème des inondations qui a amené quand on a barré la route. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on est soufflé ici à la cause des inondations. Toute la maison est tombée avec les enfants dedans. Donc c'est pour cela qu'on a barricadé la route. Il y a l'eau, ça coulait la maison pratiquement. C'est pour cela qu'on a barré la route.
Les dégâts sont aussi énormes dans le 4e arrondissement, précisément dans les localités longeant le canal Ngoubagara. Jusqu'à ce lundi matin, aucun bilan exact n'était encore disponible, car de nombreuses familles s'attendaient au pire avec leurs habitations coincées au milieu des eaux. De leur côté, les autorités de Bangui n'ont pas encore officiellement réagi à cette catastrophe qui n'en est pas à son premier dégât dans la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La Tanzanie a réservé des funérailles nationales dimanche aux victimes du naufrage du ferry qui a fait au moins 224 morts la semaine dernière. Le navire transportait près de 3 fois le nombre de passagers autorisés. Abdourahmane Dia.
Au cours d'une cérémonie sur l'île d'Oukara, au large de laquelle le ferry a chaviré, le premier ministre Kassim Majaliwa a évoqué un grand deuil pour la nation tout entière. Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pu être identifiés. Les autres cercueils seront mis à terre plus tard ou ont été amenés par des proches souhaitant des funérailles plus intimes. Les représentants de plusieurs confessions religieuses se sont relayés au micro hier pour des brèves prières et de gerbes de fleurs ont été déposées devant les cercueils. Les drapeaux, comme à travers tout le pays, étaient en berne. Le premier ministre a indiqué qu'un mémorial serait érigé à Oukara. Les opérations de recherche des corps se poursuivent et des travaux en vue de sortir le ferry du lac continuent, même si, selon le ministre des Transports, l'essentiel est fait. Les autorités ont annoncé l'arrestation de toutes les personnes chargées de la conduite et de la supervision du navire.
Afrique de l'Ouest maintenant, 12 membres d'équipage de navires battant pavillon suisse ont été enlevés ce week-end au large du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de la compagnie suisse de transport maritime, Masol Shipping. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le communiqué de l'armateur suisse rendu public hier, un groupe de pirates a réussi à monter sur le pont du Glarus, se servant de hautes échelles et ont coupé les barbelés de protection. Après avoir détruit une grande partie de l'équipement de communication sur le navire, le groupe est parti avec 12 des 19 membres de l'équipage qu'ils ont pris en otage samedi, indique le texte. Patrick Adamson, porte-parole de Muscle Shipping, a expliqué qu'il s'agit de la deuxième attaque de cette envergure cette année dans le delta du Niger, région pétrolière au sud-ouest du Nigeria. Habituellement, les pirates ne donnent aucune nouvelle pendant les premières 48 heures de l'enlèvement, donc nous attendons d'avoir des nouvelles, souligne M. Adamson, qui précise que pour la sécurité des otages et le respect des familles, ni leur nationalité, ni leur identité ne seraient dévoilées. Alors que la situation s'est apaisée dans le golfe d'Aden, à l'est du continent au large de la Somalie, c'est désormais le golfe de Guinée, avec ses 5700 km de côte, qui est devenu le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Plus de 60 membres d'équipage au total ont été enlevés en 2017 au large du Nigeria.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.